pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Sans détour, avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour, édition du 11 avril 2022. Le 11 avril, le printemps est avec nous. Derrière chez moi, dans le boisé, on entend les grenouilles qui chantent. Voilà, nous aurons le plaisir d'avoir aujourd'hui Isabelle Cardinal, architecte de Société Logique, qui va nous parler du nouveau code ou de la réforme du code du bâtiment. Monsieur Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique, passera en revue avec nous les dernières actualités de ce côté-là. Isabelle Ducharme. Alors, on a deux Isabelle et puis deux Ducharme. Isabelle Ducharme de Kéroul nous parlera du nouveau guide d'accessibilité pour une expérience culturelle accessible à tous. Et avec Jocelyn Caron de Finautonome, on fait un retour sur les budgets à la fois du Québec et du gouvernement canadien qui ont été déposés récemment et qu'est-ce que ça nous dit à nous. Voilà tout ça à Sans détour. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Isabelle Cardinal, architecte, formatrice et directrice des services de consultation chez Société Logique. Bonjour Mme Cardinal.
Bonjour M. Beauregard.
Comment allez-vous?
Ben, ça va très bien.
Comment allez-vous avec la réforme du Code du bâtiment? Parce que Société Logique, qui est une œuvre qui vise à répandre le concept de, je dirais, du design universel, vous avez fait des recommandations dans le cadre de la réforme, mais est-ce que ça a porté fruit?
Oui, le Code de construction, en fait, est revu périodiquement. Et une nouvelle édition depuis le mois de janvier 2022. Puis c'est sûr qu'à chaque nouvelle édition, il y a des progrès qui sont faits. Donc, pour répondre à votre question, ça va bien avec le nouveau code de construction. Il y a des avancées qui sont faites, c'est certain.
Bon, mais tant mieux, parce qu'il faut souvent faire avec le vieux bâti. Puis il y a aussi les règles qui vont s'appliquer à ce qui sera mis en chantier prochainement.
Oui, exactement.
Et il va y avoir aussi, je pense, une période de transition.
Oui, bien en fait, quand le code de construction, on parle du code national du bâtiment, qui est un code au niveau fédéral, et puis chaque province l'adopte avec des modifications ou sans modifications, mais au Québec, c'est avec quand même passablement de modifications, surtout pour ce qui concerne l'accessibilité. Et effectivement, depuis janvier 2022, la Régie du bâtiment a adopté le code 2015, le code national 2015, avec des modifications, mais ça ne peut pas se mettre en application du jour au lendemain. Donc, il y a une période de transition, comme vous dites, de 18 mois, où les concepteurs vont quand même pouvoir continuer les projets sur lesquels ils avaient débuté à travailler avec l'ancienne version du code. Et jusqu'à juillet 2023, là, on peut continuer avec le code, l'ancien code. Puis on peut aussi utiliser dès maintenant là, cette nouvelle version du code qui est en vigueur depuis janvier 2022.
Est-ce que le code, dans sa nouvelle mouture, est-ce que ça a une influence sur le vieux bâti? Où on parle strictement des projets à venir.
C'est surtout ça vise les nouvelles constructions. Ça s'applique aussi dans le cas d'une transformation qui serait majeure. Je ne veux pas rentrer dans les technicalités du code de construction, là, mais la transformation d'un bâtiment existant est visée par une section particulière du code et c'est pas dans cette section particulière-là qu'il y a eu de grands changements. Les changements les plus notables sont dans la section là qui concerne l'accessibilité, la conception sans obstacle, qui vise principalement les nouvelles constructions et qui peut aussi s'appliquer dans certaines situations à des transformations qui sont importantes ou majeures.
D'accord. Et Je sais que vous allez d'ailleurs, en fait, vous êtes formatrice, donc vous allez aider à répandre l'information, à diffuser l'information au sujet des nouveautés dans le code depuis janvier. Quelles sont les plus importantes modifications, particulièrement en ce qui a trait à l'accessibilité ou au design universel?
Oui. En fait, les modifications les plus importantes, je dirais, probablement que les concepteurs traditionnels trouvent que c'est des grands changements. Pour les personnes qui sont plus directement concernées, on peut trouver que c'est pas des changements qui vont avoir un grand impact dans notre vie ou dans leur vie. Je vous donne un exemple. Il n'y a jamais eu d'exigence pour avoir un ascenseur dans aucun type de bâtiment.
Jamais? Quelle que soit sa hauteur.
Il n'y en a jamais eu des bâtiments de grande hauteur, mais l'idée, c'était pas tant l'accessibilité que...
De décourager les locataires de louer un 10 étages juste en escalier.
C'est ça. À partir de 6 étages, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient intéressés ni à louer ou à habiter un édifice. Donc, c'était plutôt requis pour les bâtiments de grande hauteur. Maintenant, il y a un ascenseur qui est exigé pour les bâtiments de plus de 4 étages. C'est une bonne avancée, mais concrètement, pour l'accessibilité, on peut trouver qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour améliorer la situation.
Quand vous dites 4 étages, vous parlez qu'il y a 4 niveaux au-dessus du sol.
De plus de 4 étages. De 4 étages, on va faire ça simple au-dessus du niveau du sol. C'est un peu compliqué à calculer, mais le sous-sol ne compte pas. Plus de 4 étages en hauteur de bâtiment, donc c'est les étages qui sont au-dessus du niveau du sol.
Plus de 4, on appelle ça 5 minimum. Voilà.
Oui, c'est ça. Je lis exactement, je veux vraiment reprendre le texte du code parce qu'aussitôt qu'on essaie de vulgariser des fois, on change un peu l'esprit. Là. Donc, c'est vraiment dans les bâtiments de plus de 4 étages. Une autre nouveauté, c'est par rapport aux terrasses communes. C'est vraiment spécifié maintenant quand il y a une terrasse commune, elle doit être desservie par un parcours sans obstacle. Donc, on imagine une terrasse commune, par exemple, au rez-de-chaussée d'un édifice. C'est exigé maintenant qu'elle soit accessible. Et si on avait, par exemple, une terrasse commune à un autre étage dans le bâtiment, c'est sûr qu'il n'y a pas l'exigence d'avoir un ascenseur nécessairement, par exemple, pour notre famille de 6 de 4 étages et moins. Mais si on a un ascenseur dans un édifice, et que ce sera un choix d'un concepteur et qu'on a une terrasse commune, il faut vraiment que le parcours nous permette d'y accéder aussi. Donc, c'est des petites choses, mais qui sont d'une grande importance pour les personnes à mobilité réduite, qui vont peut-être de soi, je pense, pour nous qui militons et qui sont dans le milieu. C'est des choses sur lesquelles on faisait des demandes depuis longtemps. Je pense que les milieux aussi le demandaient. Fait que c'est tout des petits ajouts comme ça qui améliorent la situation, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire là, pour répondre à l'ensemble des besoins.
Ça, oui, parce que l'exemple de la terrasse, on retrouve ça très fréquemment maintenant dans les ensembles d'habitation à titre de caractéristiques attrayantes pour l'endroit.
Oui.
C'est qu'il y a une
oui.
terrasse, quelque chose agréable pour y prendre
ça
l'air. Alors,
des espaces de vie qu'on offre maintenant, dans l'habitation, oui, mais on pense à tous les espaces communs, tu sais, restaurants, terrasses couvertes.
C'est vrai.
Avec la pandémie, là, on a vu comment on profitait les espaces extérieurs, comment c'est important. Mais encore aujourd'hui, ça fait partie des espaces super intéressants d'un lieu, mais souvent non accessibles.
Moi, j'avais plutôt la vision de monter plus de 4 étages en escalier, mais comme vous dites, ça peut être aussi bien un bâtiment commercial avec une aire de restauration ou quelque chose d'autre qui peut comprendre une terrasse. Il y a quelque chose au sujet de la largeur maximale entre les mains courantes d'une rampe d'accès. Il fallait pas que les rampes soient trop larges avant.
En fait, là, moi, j'ai eu à donner la formation justement via l'Ordre des architectes, puis je suis allée à la pêche aux précisions par rapport à ça. Parce qu'au départ, quand on lisait la modification dans le code de construction, on avait l'impression que dorénavant, on pourrait faire des rampes d'accès de super larges avec des mains courantes très, très distanciées. Mais en fait, la nuance qui a été apportée, c'est que Auparavant, la largeur était vraiment bien fixe et bien déterminée. Et dans certaines occasions, c'était contradictoire avec la largeur minimale requise pour évacuer un bâtiment. Donc, l'idée d'avoir enlevé la largeur très précise vient simplement harmoniser les largeurs dont on aurait besoin pour évacuer le bâtiment. Ça ne va pas faire en sorte nécessairement de générer des rampes d'accès super larges. Je pense que dans le concret, là, pour les personnes, concrètement, ça risque pas de changer énormément la situation. Là, on va parler de quelques centimètres de différence. Mais il y a quand même cette nuance-là qui, sur le coup, nous apparaissait comme incongrue du fait qu'on avait l'impression que ça pouvait générer là, des rampes très, 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 très larges. Mais après vérification avec la régie, ce n'est pas le cas. Ils ont enlevé la largeur maximale, mais à la base, on va calculer avec les largeurs d'évacuation.
Mais à l'usage, on s'en aperçoit pas.
Mais à l'usage, je pense que pour les personnes, ça ne devrait pas faire une grande différence. Non.
Est-ce qu'il y a d'autres recommandations que vous aviez faites qui s'y retrouvent ou qui ne s'y retrouvent pas?
Il y a beaucoup de petits changements qui sont dans les détails, qui sont des précisions qu'on avait données pour une meilleure fonctionnalité, tu sais, les cabines de toilettes, les barres d'appui, de la quincaillerie. Tu sais, le parcours sans obstacle est exigé. On peut entrer puis circuler dans un bâtiment, mais quand on vient pour vraiment utiliser les
choses,
les commandes, il y a plein de petites choses qui font en sorte qu'on ne peut pas utiliser les lieux.
La salle de bain peut être accessible dans un lieu public, mais si le lavabo est mal conçu puis la robinetterie est inadéquate, nous voilà dans la salle de bain en fauteuil, mais malheureusement, on ne peut pas s'en servir.
Oui, ben, je vais vous donner un exemple concret. La cabine de toilette accessible dans une salle de toilette où on a plusieurs cabines, là, des petits compartiments. La cabine accessible n'est pas très grande. On a la cuvette qui est dans la cabine et il n'y avait pas d'exigence ou de précision. Quand on ouvre la porte, soit qu'on est vis-à-vis l'espace libre à l'intérieur ou on peut se retrouver vis-à-vis la cuvette, on n'a pas d'espace pour rentrer puis aller jusque dans l'espace libre. Là, ça a été corrigé. C'est une modification qui est dans le nouveau code où là, au moins, quand on va ouvrir la porte, on doit être vis-à-vis l'espace
libre pour qu'on puisse s'y positionner.
Mais la cabine est toujours aussi petite qu'avant.
D'accord. Alors, on peut mettre ça dans la catégorie de c'est moins pire.
C'est moins pire, mais il y a encore du chemin à faire. Je pense que ça va être ma phrase clé de cette entrevue. Il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Il faut pousser encore. Ben, Madame Cardinal, je vous remercie à titre d'architecte et de formatrice et tout le travail qui se fait chez Société Logique. Pour qu'on obtienne une société qui soit effectivement logique et d'une accessibilité universelle et d'un design universel. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup.
Bienvenue, je vous souhaite une belle journée.
En caravane, allons à la cabane. Sous sa robe blanche, endormie pendant de longs mois, la sève monte dans les branches, un frisson réveille les bois. Dans les érablières sont allés tous nos gens, la joyeuse clairière retentit de leurs chants. Voici qu'arrive le printemps. En caravane, allons à la cabane. Oh, hey, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Toute la famille est complète, chacun veut en avoir sa part. Voici Hermance et Guillaumette, et voici le gros Adélard. Bonjour, tante Julie, comment vont les enfants?
très bien, chère Amélie. Nous sommes tous contents pour les sucres, quel joli temps.
En caravane, allons à la cabane. Oh, eh, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Pour goûter au sirop d'érable.
Voici l'instant où l'on retire le chaudron bouillant du foyer. On va verser la blonde tire sur la neige au bout du sentier. Ensuite, au clair de lune, on s'en revient chez nous. Et j'en connais plus d'une qui choisit son époux le soir en revenant tout doux.
Ah, caravane, allons à la cabane. Oh, eh, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Pour goûter au sirop.
La cabane à sucre, ben c'est le temps des sucres. Si vous n'avez pas été à la cabane au cours des dernières semaines, dépêchez-vous. Voilà. La cabane à sucre est tirée de l'album Embarque, sorti en 2010, qui était l'œuvre des Vieux Borlots, B-O-R-L-O-T-S, qui est un groupe folklorique de Rouyn-Noranda. Et la chanson elle-même a été écrite par M. Albert Larieux, un Français qui a séjourné au Québec entre 1917 et 1922. Alors, on parle vraiment d'une vision typique de la cabane à sucre, là, une vision centenaire. L'œuvre de M. Larieux avait été publiée chez Archambault en 1921, donc, et reprise plus récemment par les Vieux Borlots. Alors, voilà, c'était la cabane à sucre. Et après s'être tourné vers le passé, tournons-nous vers l'avenir avec M. Philippe Ducharme et l'actualité scientifique. Bonjour, Philippe.
Bonjour François, merci beaucoup.
Oui, tout à fait. Alors, on parle de la cabane à sucre traditionnelle et puis maintenant, on va se projeter dans quelque chose qui est plus près de nous et on va parler d'ouïe d'abord.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une nouvelle qui a attiré mon attention d'abord sur le fait qu'en Colombie, dans une petite localité de Cali, il y a un sentier d'observation de la faune, en fait, plus précisément des oiseaux, un sentier qui est aménagé en fait pour les personnes malvoyantes. Donc, ça leur permet d'apprécier le son des différents oiseaux. C'est une activité qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler le tourisme inclusif. Donc, leur permettent également aussi de vivre une expérience agréable en nature. Et ça m'amène sur le fait suivant, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que les personnes malvoyantes ont une audition plus développée.
Ah oui, on a évidemment, ça fait partie de ce qui pourrait être un mythe, là?
Oui, ben, ça pourrait sembler être ça. Ceci dit, il y a des études qui l'ont démontré, en fait, qui sont venues démontrer le fait qu'effectivement, les personnes avec déficience visuelle, voire la cécité totale, ont une meilleure capacité auditive, en fait, une capacité auditive plus développée. Et une étude parue en 2019, une étude qui a été faite par imagerie par résonance magnétique, là, ce qu'on appelle le IRM, c'est une étude donc qui a été capable de mettre en évidence que le cerveau des personnes malvoyantes est en mesure de mieux représenter les différentes fréquences sonores.
On peut le repérer parce que l'imagerie permet de vérifier s'il y a une activité électrique plus importante dans la section du cerveau qui régit ou qui gère l'audition.
Exactement. Donc, la partie qui va justement traiter l'information auditive. Petit rappel rapidement, là, on parle de fréquence sonore. Ce que ça veut dire, finalement, bon, le son se propage dans l'air. Il se propage en formant, en quelque sorte, des vagues. Et ce qu'on peut retenir ici, c'est que lorsque la distance entre les vagues est petite, on parle ici d'une fréquence sonore élevée, donc ça se traduit par un son aigu. À l'opposé, lorsque les vagues sont distancées l'une par rapport à l'autre, on obtient à ce moment-là une fréquence plus basse, ce qui est associé à un son plus grave. Donc, c'est une petite notion par rapport à ce que c'est que la fréquence sonore. Si on revient à l'étude, par contre, ce qu'elle a été capable de démontrer, cette étude-là, pour la première fois, c'est que la cécité fait en sorte que le cerveau de ces personnes-là va évidemment s'adapter à cette condition-là et va le faire de quelle manière? Ben, par la neuroplasticité.
L'adaptation du système nerveux à de nouvelles conditions.
Tout à fait. Donc, en gros, essentiellement, c'est que le cerveau, les neurones dans le cerveau vont établir soit des nouvelles connexions, soit qu'elles vont en retirer, tout simplement, ou elles vont consolider des interactions qui existent déjà entre deux neurones, par exemple. Essentiellement, le but dans tout ça, c'est d'augmenter l'efficacité de la communication entre les neurones du cerveau. Donc, la résultante de ça, c'est que les personnes aveugles vont arriver à extraire beaucoup plus d'informations du son comparativement à des gens qui peuvent justement bénéficier de la vision.
Et qui a priori, vont peut-être davantage tirer l'information sur le milieu ambiant de ce qu'ils voient.
D'accord. Exact. Donc, on entend souvent parfois l'expression « Ah, ben oui, ces gens-là ont un sixième sens. » Donc
C'est juste qu'on en a un quatrième dont on sert mieux, étant voilà, donné que le cinquième est défectueux. Voilà.
C'est ça, on peut dire ça. Donc, ça m'amène sur un autre aspect de l'audition qui est l'écholocation. L'oreille, en fait, est constituée d'une partie interne et d'une partie externe. La partie externe étant le conduit auditif et le pavillon. Donc, la région de l'oreille avec plein de petits plis.
C'est les oreilles que l'on voit quand on dit que quelqu'un a les oreilles décollées ou les oreilles pointues. C'est le truc en cartilage là, qu'on a sur le côté de la tête. Oui.
Et voilà, exactement. D'ailleurs, cette partie-là est unique à chaque personne. Donc, on peut quasiment voir ça comme une forme d'empreinte digitale, en ce sens qu'il n'y a pas deux oreilles qui se ressemblent. Ce qui est intéressant du pavillon, c'est qu'évidemment, c'est une partie qui permet de collecter et d'amplifier le son, de le diriger vers le conduit auditif. Mais encore, c'est aussi le pavillon qui est responsable, qui permet de localiser la provenance du son. Donc, est-ce que le son vient d'en avant, vient d'en arrière, vient des côtés? C'est le pavillon qui joue ce rôle-là. Et pour vous en convaincre, moi, je vous propose une petite expérience à tenter à la maison. À l'aide de pâte à modeler, donc de la plasticine, recouvrez les plis de votre pavillon.
D'accord.
Attention.
Il ne faut pas mettre dans le conduit auditif. Non, là. Non, il ne faut pas se rendre sourd.
Surtout pas. Mais d'accord. Simplement, en recouvrant les plis de l'oreille, vous serez à même de constater qu'il est rendu difficile, voire même impossible de distinguer la provenance du son. Quelqu'un, par exemple, serait derrière vous en tapant des mains et vous auriez probablement de la difficulté à savoir que c'est derrière vous. En fait, vous n'aurez peut-être pas la capacité de distinguer, mais d'où vient ce son. Évidemment, si on gardait la plastique toxines en place pendant quelques semaines, le cerveau s'y adapte.
Et on trouverait moyen d'utiliser l'information disponible, peut-être.
Et voilà, parce que le cerveau va tranquillement s'adapter à cette nouvelle situation-là et va le faire notamment par la neuroplasticité.
Mais la forme du pavillon de l'oreille, là, qui.
Oui.
C'est pas une erreur de la nature ou un caprice. Il y a une raison qui, au fil de l'évolution, a permis de créer des oreilles efficaces qui nous permettent de savoir de quel côté vient le danger.
C'est ça. Voilà. Alors, ça fait le tour de ce sujet.
Ouais, mais en parlant de ce qui peut permettre à une personne malvoyante ou aveugle de mieux s'y retrouver, il y a une avancée importante à l'Université de Sherbrooke.
Effectivement, donc une avancée importante au niveau de ce qu'on appelle les implants, disons, rétiniens, c'est-à-dire que une équipe de l'Université de Sherbrooke, dirigée par le professeur Régent Fontaine, ont mis au point une nouvelle, technologie de puces électroniques, des puces qui sont implantées au niveau de la rétine, donc la membrane qui tapisse le fond de l'œil. Pour vous donner une idée, là, l'implant, là, en partant, là, c'est quelque chose qui est à peu près gros comme un flocon d'avoine. Fait qu'on imagine, c'est pas très gros.
C'est petit, un flocon d'avoine. Là. C'est
pas mal.
Ça
s'adresse à qui, en fait? C'est pour essentiellement les gens qui souffrent, par exemple, de rétinite pigmentaire. Donc, une maladie qui touche spécifiquement les cellules.
Une maladie qui touche votre animateur.
Oui, c'est ça. Donc, tu es en mesure de savoir de quoi il en retourne. Donc, ça affecte les photorécepteurs, donc les cellules qui tapissent la rétine. Ces cellules-là, en fait, il y a deux catégories. Il y a les bâtonnets, c'est les cellules qui permettent la vision périphérique, la vision nocturne. Il y a aussi les cônes, les cellules qui sont responsables de la vision centrale et notamment aussi de la détection des couleurs, donc la distinction des couleurs. Chez les gens qui sont atteints de rétinite pigmentaire, bien, ce sont d'abord les bâtonnets qui en souffrent. Donc, les bâtonnets vont se dégrader, les cellules vont mourir. Ça crée en quelque sorte une vision tunnel, ce que j'imagine tu dois connaître.
Oui, tout à fait. Alors, cette puce permet de capter de la lumière et de l'envoyer au cerveau en utilisant un nerf optique qui est encore sain.
Absolument. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'individu doit porter une paire de lunettes. Cette paire de lunettes-là dispose de caméras. Ces caméras-là vont capter la lumière, va ensuite la transmettre au niveau de l'implant rétinien, l'implant qui a été placé au niveau de la rétine. La transmission d'information se fait par de la lumière infrarouge. Et lorsque l'implant reçoit cette information-là, ben il la transforme en signal électrique qui pourra ensuite être acheminé dans le cerveau pour être analysé, si on peut dire ça. Ce qui est quand même intéressant.
Oui, certain que c'est intéressant. Merci beaucoup, Philippe. On va se reparler le mois prochain pour d'autres sujets scientifiques. Merci.
Bon, ben, ça va me faire plaisir. Parfait. Bonne journée à toi.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô, le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Avec François Beauregard.
De retour après la pause, la fin du confinement, finalement, permet plus d'accessibilité ou plus de diversité dans l'offre culturelle autour de nous. Et c'est important que nous puissions tous y participer et en profiter. À ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul, grande spécialiste de tourisme inclusif. Bonjour, Madame Ducharme.
Bonjour, François.
Ça va bien, oui.
Ça va bien vous-même.
Ça va bien, merci. On va se tutoyer, Isabelle, parce qu'on se connaît trop que le vouvoiement deviendrait peut-être gênant.
Je me demandais qu'est-ce qui était le plus approprié.
Je pense que le naturel revient au galop. Chez Kéroul, il y a quelque chose d'assez important que vous venez de, vous dans le sens de Kéroul, que vous venez de mettre en ligne et de rendre disponible. C'est un guide sur l'accessibilité pour toute l'activité culturelle.
Effectivement, ça s'appelle pour une expérience culturelle accessible et inclusive. Donc, c'est un guide de référence pour le milieu culturel. Donc, c'est principalement pour les gestionnaires, autant de musées que de salles de spectacle, tout ce qui peut avoir un lien avec la culture. Et ce qu'on veut, c'est à la fois démontrer, bien sûr, au début, là, on va parler plus du classique, là. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre le lieu physiquement accessible à tous? Comment on fait pour que les gens puissent s'y retrouver, qu'ils aient une déficience visuelle, intellectuelle, peu importe. Puis ensuite, on va rentrer dans les spécifiques de différentes sphères de la culture. Comment on fait pour qu'une exposition soit plus intéressante pour tout le monde? Comment on fait pour qu'il y ait des moments réservés à, peut-être pour certaines clientèles qui ont besoin d'un peu plus de tranquillité, comme les personnes avec un TSA ou des choses comme ça? Donc, ça va vraiment là du cinéma, les festivals. C'est vraiment très, très large. On en est très, très fiers.
Et donc, ce document-là a été réalisé en collaboration avec des gens du milieu?
Absolument. C'est une recherche qui a été faite pour tout ce qui est de la francophonie. Donc, on est allé voir ce qui se fait en Belgique, en France. Je vous rassure, là, on n'a pas pris l'avion. On a plutôt fait une recherche bibliographique, ou on a fait une recherche parmi les organismes connus qui s'occupent de culture. Et on a eu le bonheur d'avoir, à travers tout ça, bien sûr, des contributions financières qui nous ont permis de le faire, comme le ministère de la Culture et des Communications et le ministère du Tourisme, qui sont des alliés depuis longtemps, mais qui nous ont permis donc de faire une bonne recherche là, de ce qui existe. Et donc, le guide, il est fait de telle façon que une fois qu'on a passé à travers les premières parties là, que je vous ai mentionnées, mais pour chaque section, par exemple, sur les musées, on va non seulement dire c'est quoi les choses à faire, qui sont gagnantes pour être à la fois accessible et inclusif, et ensuite, on va mettre des exemples d'ici concrets. Et d'ailleurs.
Ah, d'accord. Et comment est-ce qu'on se compare? On aime ça se comparer.
Oui.
Est-ce qu'on se console ou on se désole?
Je vous dirais qu'on fait des belles choses ici. On a des choses qui se démarquent et il y a des belles choses qui se font ailleurs qu'on fait moins ici. Je voudrais qu'on est dans la moyenne de la francophonie qui veut se rendre plus accessible. C'est ça qui est intéressant, par contre. C'est de voir que quand on a fait des recherches il y a peut-être 10-15 ans, il y avait beaucoup moins de choses qui se faisaient qu'aujourd'hui, autant ici qu'ailleurs. Fait qu'on a quand même là des joyaux ici qui se font. Moi, personnellement, je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur. Je ne sais pas si vous connaissez Maxime Pomerleau.
Oui.
Elle fait beaucoup de choses, elle, dans tous les sphères de la culture. Et j'ai assisté à un Hack Lab 21 qui est en collaboration avec Music Motion, qui est un organisme à but non lucratif, puis qui veut faire avancer la musique et les arts interactifs.
Puis on parle d'art numérique, là. On est à la fine pointe.
Et en 2021, ils ont fait un événement spécifiquement pour inclure des personnes avec tout type de limitations. Donc, on avait autant des personnes avec une déficience visuelle, déficience motrice, tout ça. Et ils ont réussi, parfois en mettant des électrodes sur les personnes, parfois en permettant à apprendre à travailler avec le clavier, c'est dépendant des limitations fonctionnelles de chacun. Ils ont fait un événement où on a été invités donc à assister à ça. Et ensuite, l'équipe gagnante avait la possibilité de travailler plus longtemps que pour juste cet événement-là sur ce qu'il avait commencé à développer là, comme activité. Et d'ailleurs, c'est Maxime qui s'est vu octroyer avec son équipe là, la possibilité de poursuivre ce travail-là. Ça, c'est quelque chose qui était... Moi, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler avant.
C'est nouveau. Il faut enlever son chapeau poussiéreux, là, puis oui. aller de l'avant, oui.
Oui, parce que je vous dis, il y a quand même des choses plus classiques, quand même, là, comme, tu sais, des musées qui permettent... Je sais qu'il y a le Centre des sciences, maintenant, qui a des matinées tranquilles, où là, on permet à des gens d'avoir des parents qui peuvent y aller avec des enfants et qui sont plus sensibles au bruit, au mouvement, tout ça. Et donc, ces matinées-là sont réservées pour qu'ils puissent quand même participer aux activités, mais sans être pris dans une foule ou dans des bruits et dérangés.
Parce que c'est vrai que la muséologie moderne est plus interactive, surtout, par exemple, un musée de technologie ou un musée scientifique.
Oui.
Et beaucoup de lumière, de clignotement, de bruit, de stimulation peuvent devenir submergentes là, pour des personnes qui ont, une atypie neurologique ou simplement, on va appeler ça une neurologie différente. Là. Elle n'est pas atypique, oui. Elle est simplement autre.
Pour nous, c'était une belle suite. Hein. On a fait un guide de l'accessibilité des bibliothèques de la grande région de Montréal. Donc, une belle suite à ça. Pour ceux qui sont intéressés, là, on a toutes sortes d'autres guides qui sont disponibles aussi sur notre site web. On en a un sur comment rendre le plein air plus accessible. On a vraiment beaucoup d'outils. Là. Si vous allez dans notre section documentation ou la section entreprise de notre site web, là, le Keroul, KEROUL.qc.ca, on a vraiment beaucoup de ressources qui peuvent être intéressantes là, pour les gens qui veulent comprendre. Puis moi, ce que j'aime de notre nouveau guide, je vous dirais, c'est que si vous aimez ça, la culture, puis vous aimez ça, vous voulez vous assurer de faire une activité qui est bien adaptée, mais même si le guide a été conçu pour
les exploitants ou les propriétaires ou les artisans.
Nous, là, en tant que personne en situation de handicap, on peut aller voir c'est quoi les bonnes pratiques qui ont été mises là, puis aller en profiter. Si on parle des activités qui se font au Musée des Beaux-Arts de Montréal ou des activités qui se font dans différents endroits, ben profitons-en. On sait qu'ils sont accessibles. Fait que c'est une bonne façon aussi. Là. Et le guide, il est facilement accessible sur notre site web. Malheureusement, on n'en a pas de version imprimée parce que c'est quand même 189 pages.
Oui, puis
c'est l'ère numérique où on est, c'est aussi bien de l'avoir en virtuel. Donc, autant en version PDF qu'en version Word, pour ceux que c'est des PDF, c'est un peu plus difficile. Là.
Et dans ce guide-là, qui est à l'origine, à l'intention des personnes, des organismes qui offrent un contenu culturel, que ce soit un exploitant de salle de cinéma ou la direction d'un musée ou un groupe d'artistes qui veulent faire quelque chose et le diffuser d'une façon accessible. Mais encore une fois, on peut s'en servir de l'autre côté, comme vous dites. On peut s'en servir parce qu'il y a des coups de cœur, puis il y a des exemples de bonnes pratiques qui peuvent nous pointer vers des directions intéressantes.
Effectivement, et comme je vous disais, là, ça inclut vraiment là, tout ce qu'on peut penser en termes de sphère culturelle, là, incluant les théâtres, donc les arts de la scène, etc. Et on parle bien sûr aussi de l'autre côté. Quand on est un artiste et qu'on veut faire valoir ses talents d'artiste, mais on parle aussi aux gestionnaires de comment rendre l'arrière-scène plus accessible, comment penser à inclure des artistes en situation de handicap dans nos exposants, dans nos personnes qui participent à nos activités, etc.
Oui, parce qu'il est question de l'art-thérapie en art visuel et donc non seulement de l'accessibilité à l'œuvre, mais également la participation à sa création.
Oui. Et on va jusqu'à, par exemple, comment s'assurer qu'on communique cette information-là et d'une bonne façon, par exemple, avec la méthode FAD, qui est facile à lire et à comprendre, pour, tu sais, dès qu'on met à la fois des mots, mais des images, bien, on finit par rejoindre autant par les mots, peut-être que la personne avec une déficience visuelle va être capable de lire pour comprendre l'information, mais on ajoute des images pour la personne qui a peut-être que le français est une langue seconde ou qui a des troubles d'apprentissage, etc. Donc, on y va vraiment dans toutes les sphères là, qui peuvent faciliter l'accessibilité et l'inclusion, parce qu'on trouve que l'inclusion, c'est très important aussi. Là. Je vous le disais au début, il y a des fois où on a besoin de petites visites spécialisées, par exemple, pour une personne qui a une déficience visuelle où là, elle peut plus manipuler des choses que la moyenne des gens ne peuvent pas parce que ça abîmerait trop. Mais en même temps, on veut que dans son ensemble, tout lieu soit accessible sans que j'aie à me poser de questions, sans que j'aie à appeler avant, etc. Donc, ce qu'on veut favoriser, c'est l'inclusion. Mais sinon, dans les sphères, dans les moments où c'est pas possible, ben, on va travailler sur l'accessibilité.
Tout à fait. Et ce guide-là, donc, vient tout juste d'être lancé il y a à peine quelques semaines. C'est disponible sur le site de Kéroul, K-E-R-O-U-L. Et de cette manière-là, on l'espère, influencer les exploitants, les artistes et les amener ou les aider parce qu'ils ont déjà un parti pris d'inclusion et de diversité. On peut les aider à nous rejoindre plus facilement. Ben, Isabelle Ducharme, merci.
Ça fait plaisir. Puis n'oubliez pas qu'on a une responsabilité, nous aussi, d'aller dans les lieux culturels.
Tout à fait.
Si on veut qu'ils deviennent accessibles, il faut leur montrer qu'on est là.
Il faut leur montrer notre intérêt et il ne faut pas se gêner pour y aller et de cette manière dire, ben, nous aussi, ça nous intéresse.
Exactement.
Voilà.
Ben, merci beaucoup.
Merci, à la prochaine.
Oui, au plaisir.
Time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis. Was it the time that he was out on his own?
I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
I Know What I Like and I Like What I Know, c'était Genesis, tiré de l'album Selling England by the Pound. Genesis était un groupe de rock progressif théâtral dont les représentations étaient spectaculaires au début des années 70. En fait, Genesis a été adopté beaucoup au Québec, à Montréal, à Sherbrooke, à la ville de Québec, un peu à l'avance par rapport à d'autres endroits du monde, et c'est devenu un groupe mythique. Peter Gabriel, Phil Collins sont des noms d'artistes dont on a entendu parler après pendant des décennies. À ce sujet, il y a quelques semaines à peine, Phil Collins, au moment d'un spectacle à Londres, annonçait que c'était le dernier spectacle de Genesis. Phil Collins tire sa révérence. Malheureusement, sa santé est maintenant fort mauvaise. Alors, il n'y aura plus de spectacle de Genesis. Cependant, un groupe montréalais fondé il y a plus de 30 ans par Sébastien Lamotte s'appelle The Musical Box. C'est ce qu'on appelle un groupe hommage, un groupe qui se spécialise à reproduire sur scène de façon formidablement semblable les spectacles de tel ou tel artiste. On sait qu'il y a beaucoup de Elvis dans le monde. Bien, Musical Box, ce sont les spécialistes de faire du Genesis et ils le font si bien que c'est le groupe hommage d'abord le plus populaire du monde. Ils viennent de démarrer une tournée mondiale, 8 pays, presque 40 spectacles. Ils étaient en week-end à Montréal. Et après ça, ben, ils vont commencer à parcourir l'Amérique et aller en Europe et ainsi de suite. Et les Musical Box sont si bons à faire ce qu'ils font quand ils font du Genesis que même Phil Collins s'est déjà produit avec eux, ce qui me semble être le plus bel hommage. Un groupe hommage. Voilà, c'était le quart d'heure culturel. Ceci dit, maintenant, j'ai le plaisir de parler budget. Ah, ça, c'est toujours agréable, parler budget. Et on va parler du budget du Québec et du gouvernement canadien qui ont été déposés récemment. Et pour ce faire, je suis en compagnie de M. Jocelyn Caron, directeur général de FIN Autonome. Bonjour, M. Caron.
Bonjour.
On parle de Genesis, Phil Collins, puis maintenant, on est rendu avec Éric Girard et Mme Freelander. On fait un saut.
C'est différent comme...
C'est pas pareil.
Comme sonorité, c'est sûr.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les budgets et au Québec et à Ottawa qui devrait retenir notre attention?
Moi, je vous dirais qu'à FIN Autonome, on a pas mal plus analysé le budget du Québec. Notre analyse du budget fédéral s'en vient.
D'accord.
Alors, pour le budget... du Québec, plusieurs choses qui méritent, qui sont dignes de mention pour la mission de notre organisme et votre auditoire. Première chose, évidemment, c'est le fameux 500$ qui a fait la manchette.
Le 500$ quasi universel.
Quasi universel, à l'exception du fait que si vous faites plus individuellement plus de 100 000$, jusqu'à 105 000, ça va diminuer, mais restons modestes et tous ceux qui font en bas de 100 000 $ auront accès à ce crédit d'impôt-là, remboursable. Ce qui est bien important de mentionner pour l'auditoire à propos de ce crédit-là, c'est
remboursable. Ça veut dire que si déjà on ne payerait pas d'impôt, nous recevrons tout de même 500 $.
Exactement. Donc, ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose importante, si vous avez déjà... en tant que bon citoyen zélé, remis votre déclaration fiscale pour l'année avant l'annonce du gouvernement, eh bien, ne vous inquiétez pas, le gouvernement va procéder tout de même à au versement de ce crédit d'impôt remboursable, va faire le calcul pour vous. Mais c'est bien important de faire une déclaration.
Oui, ben voilà, parce que si on n'existe pas d'un point de vue fiscal, c'est difficile de recevoir un crédit d'impôt remboursable.
Des fois, les gens ont l'impression que parce qu'ils ont un très faible revenu, voire pas de revenu, qu'ils n'ont pas à remplir de déclaration fiscale, c'est faux. C'est une obligation de le faire. Et puis, si vous voulez avoir accès à ces crédits d'impôt-là, faites-le. Donc, nous, notre message, c'est n'oubliez pas de faire votre déclaration fiscale. Alors, ça, c'est le point qui nous touche, parce qu'il touche tout le monde. Et puis, ça va être notamment bienvenu pour les personnes en situation de handicap, parce que les besoins financiers sont en majorité plus grands que les autres segments de la population. Du côté des programmes, je vous dirais que c'est mi-figue, mi-raisin. Alors, on regarde le budget du Québec. Première chose, qui est quand même importante, qu'il faut le souligner, c'est l'augmentation de 9 % des budgets pour le transport adapté.
D'accord.
Ce qui représente une hausse de presque 12 millions de dollars par année. Et c'est, nous, on considère que c'est une bonne nouvelle parce que, de un, il y avait un retard à rattraper, et de deux, il y a de plus en plus une pénurie de taxis.
Oui.
Alors,
On en a parlé, si je peux me permettre, on en a parlé à quelques reprises ici à Sans Détour, là, pas plus tard que le mois dernier. Dans certaines régions du Québec, plusieurs régions du Québec, on parlait de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Côte-Nord, là, c'est
les taxis sont des modes de transport utilisés évidemment par les personnes en situation de handicap. Mais comme une pénurie, une augmentation des budgets dans le transport adapté, c'est toujours bienvenu. Puis là, ben, c'est quand même 9 % une année, il y a du retard à rattraper, mais c'est une augmentation qui est quand même très bienvenue.
Est-ce qu'il y avait un signal donné comme quoi il allait avoir... Parce que parfois, au moment du dépôt du budget, il y a une enveloppe qui est étalée sur plusieurs années ou c'était ponctuel pour cet exercice fiscal-ci?
Ça me semble ponctuel pour cet exercice fiscal, mais la manière dont on le comprend, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière.
D'accord.
Donc, les budgets vont rester à ce niveau-là ou vont continuer à augmenter. Ça n'a jamais été présenté, du moins, comme une hausse ponctuelle et juste sur cette année-là. Donc, d'une façon dont on va veiller au grain pour que ça continue. Il y a aussi de l'argent qui est réservé supplémentaire pour l'aide à domicile, la préparation des repas, un 67 millions supplémentaires. La part du lion de cette somme-là va revenir aux personnes aînées. Mais il va en avoir quand même réservé aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc, encore une fois, il va falloir voir dans l'application l'utilisation des crédits, mais c'est une bonne chose parce que on augmente ce budget-là. Il y a un plan d'action pour le soutien aux personnes proches aidantes aussi qui va être financé à hauteur de 125 millions, celui-ci sur 5 ans. Alors là, ils l'ont annoncé que ça va être sur 5 ans. Évidemment, ça va bénéficier aux personnes qui soutiennent dans la vie de tous les jours des personnes en situation de handicap. Là où il y a peut-être quelque chose de plus négatif, parce qu'il y a eu
On vient de parler des figues délicieuses, mais là, peut-être certains raisins amers.
Oui, c'est ça. Le raisin amer, c'est nettement la question du logement. Les sommes qui sont réservées au logement, d'une part, le sont pour des projets qui ont souvent été déjà annoncés. Puis je vous donne un exemple. Montréal demandait 250 millions pour la construction de logements abordables. Se voit octroyer environ 30 millions. Donc, un petit peu partout, on constate que les besoins en logement sont pas très bien pris en compte dans ce budget-là. Puis c'est sûr que ça a un impact sur les personnes en situation de handicap parce que c'est soit des logements qui sont à prix plus bas, donc pour
exact.
Les gens qui ont moins de revenus, ou
adapté.
Pas des logements qui sont adaptés.
Parce qu'il y a le programme d'adaptation de domicile, je pense qu'il y a 64 millions qui est destiné à ce programme-là, mais par rapport à tout le besoin, c'est peu.
Oui. C'est peu. Puis même, c'est ce qu'on pourrait aussi soulever, qui est quand même une distinction importante, c'est que un logement abordable, c'est pas nécessairement un logement à prix modique. Hein. Abordable, c'est plus bas que la moyenne, mais ça peut rester élevé.
Oui.
Pour bien des gens.
La moyenne tend à monter, alors c'est exact. Autre chose.
Exact. Nous, à Finautonome, c'est sûr que on va continuer. On a commencé cette année via des représentations avec différentes coalitions, mais nous, ce qu'on pense qui devrait vraiment être un pas en avant pour les personnes en situation de handicap, c'est le montant pour déficience grave et prolongée, Si c'est, ça devenait un crédit d'impôt remboursable,
ça ferait toute la différence.
À terme, là, ça serait exceptionnel.
Ben oui, parce que rappelons-le, si les personnes ne paient pas d'impôt, un crédit d'impôt qui n'est pas remboursable, ben on reçoit pas plus d'argent. Là,
exactement.
On n'est pas d'avance.
Donc, et c'est pour ces raisons-là souvent que les gens vont pas faire de déclaration d'impôt, l'un va avec l'autre.
Exact.
Bon. Y a aussi ça reste à analyser, là, mais ce matin, un membre de mon équipe m'a envoyé une analyse à l'effet qu'il y aurait peut-être des baisses dans l'enveloppe des aides sociales le contexte où on va réformer tous les programmes d'aide aux revenus.
Oui, tout à fait. Là, c'est la main gauche et la main droite ne se parlent pas. Ça. Ou peut-être... pour terminer, M. Carr, tout de même, du côté fédéral, il est question d'un 500 $ d'aide pour les plus démunis pour le logement, mais ça, on n'a pas vu de détails. Là, le chiffre a été avancé, mais sans aller plus loin. Il y a un crédit d'impôt, je pense, à la rénovation des maisons pour en faire des domiciles intergénérationnels ou adaptés aux personnes handicapées. Et il y a la question de l'assurance dentaire qui, à partir de 2023, sera accessible, où il y aurait une gratuité ou une forme d'assurance pour les soins dentaires pour les personnes handicapées à partir de 2023. Mais là, il y a une coordination à faire avec le programme québécois là, qui reste à définir.
L'autre dernière chose qu'on peut soulever de manière préliminaire sur le budget fédéral, c'est que le gouvernement canadien a quand même annoncé en grande pompe à la suite de l'élection, l'idée de vouloir faire un revenu...
garanti. Ça, c'est un bon sujet, M. Caron. Il va falloir qu'on s'en reparle. Ça ne sera pas aujourd'hui. Je dois vous remercier déjà. Et on se reparle la semaine prochaine, tout le monde. M. Caron, peut-être le mois prochain.
Oui, à bientôt. Merci.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relish moutarde puis de liqueur.
Et surtout à ça...
Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.